plateforme. Les sciences humaines.
Bibliothèque publique d'information. Éclairage pour le 21e siècle. Artistes et intellectuels pendant l'occupation. Avec Alan Reading et Gisèle Sapiro. Une rencontre animée par Olivier Postelvini.
Le débat de ce soir est consacré au sujet gigantesque que nous avons abordé dans le dernier numéro de Books intitulé « Sur les écrivains et les artistes sous l'occupation ». C'est une boîte de Pandore, c'est un sujet immense sur lequel on peut gloser à l'infini. Le prétexte de ce dossier, il est à ma droite, en chair et en os, c'est Alan Reading qui a écrit un livre qui sera publié chez Plon, dont la traduction sera publiée chez Plon au printemps prochain, sur la culture, enfin sur le Paris culturel sous l'occupation. Le livre s'intitule And the Show Went On, Cultural Life in Nazi Occupied Paris, c'est-à-dire Et la fête continua, la vie culturelle dans Paris occupée par les nazis. C'est un livre qui, je pense, intéressera beaucoup le public français quand il sortira. Parce que c'est, de mon point de vue, de non-spécialistes, mais tout de même, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, plus ou moins familiers de ces sujets, c'est probablement la meilleure synthèse écrite, et avec l'originalité de traiter à la fois des intellectuels, des écrivains et des artistes. Et c'est le fait, à mon avis, enfin, l'une des originalités du livre, c'est d'intégrer les artistes dans le sujet. Alan Reading a longtemps été le correspondant du New York Times à Paris et plus particulièrement à Paris, le correspondant pour le New York Times des questions culturelles pour l'ensemble de l'Europe. Il a aussi une expérience mexicaine, non négligeable, dont peut-être il vous dira un mot parce que c'est pas, je crois, sans intérêt pour comprendre les raisons pour lesquelles il a écrit ce livre. À ma gauche, Gisèle Sapiro, qui est une chercheuse au CNRS, et qui a écrit plusieurs livres importants, dont un premier livre il y a maintenant plus de 10 ans, qui s'intitule « La guerre des écrivains 1940-1953 », dans lequel elle analyse non seulement l'attitude des écrivains, donc pas les artistes, encore que ça, évidemment, on peut concevoir que certains écrivains puissent être considérés comme des artistes, donc des écrivains, et pas seulement des écrivains, mais aussi d'institutions, comme l'Académie Goncourt, la NRF et le Comité national des écrivains. Et son dernier livre, donc je fais abstraction de livre intermédiaire, son dernier livre porte plus généralement sur la responsabilité de l'écrivain en France du 19e siècle à nos jours. Et Alain Gérard Slama, que ceux qui écoutent France Culture ne peuvent pas ne pas connaître, puisqu'il s'y livre à un exercice quotidien depuis de nombreuses années, qui a été longtemps professeur d'histoire des idées politiques à Sciences Po et qui, d'ailleurs, toujours, je crois, exerce à Sciences Po, qui a toute une série d'étiquettes que je passerai sous silence. Il est là parce que, en particulier parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le siècle de Monsieur Pétain » et c'est sur la passion identitaire qui est paru chez Perrin en 2005. Il nous expliquera pourquoi on peut parler non pas du vichisme certains types d'attitudes que l'on a pu observer sous Vichy, seulement sous Vichy, mais dans quelle mesure cela peut permettre de désigner un trait, une permanence dans l'histoire de France récente. Et j'ai également invité, mais tardivement, parce que je ne savais pas qu'elle serait présente à Paris, Michelle Cohn, qui est une Américaine d'origine française ou française expatriée aux États-Unis, je ne sais pas comment dire, qui vit aux États-Unis depuis maintenant très longtemps, qui est une historienne de l'art et qui a écrit 2 livres importants sur les artistes sous Vichy. Ce sont 2 livres dont l'un a été publié chez Princeton University Press, l'autre chez Cambridge University Press, et dont aucun n'a été publié en français. Donc elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente aujourd'hui, discrètement installée au premier rang. Et j'aurai sans doute l'occasion de lui poser une question. Elle a d'ailleurs toute liberté pour intervenir quand elle le souhaite, comme vous d'ailleurs, parce que la règle du jeu, c'est plutôt la discussion, l'échange. Je cherche à limiter au maximum les interventions longues, et ce qui d'ailleurs est une façon de me rappeler qu'il faut que j'arrête la mienne. Ah, je voulais quand même citer, parce qu'il faut toujours, on est censé toujours commencer par quelque chose de drôle, une anecdote. J'oublie quelquefois de le faire, mais là quand même, il y a cette remarque de Woody Allen dans le film Annie Hall. Quand même, les résistants français ont eu beaucoup de courage, supporter aussi longtemps les chansons de Maurice Chevalier. Alors, c'est une introduction, et alors, il dit ça après donc avoir vu le film Le Chagrin et la Pitié, qui pour beaucoup d'entre nous, avec le recul du temps, compte tenu du rôle du cinéma, etc., dans notre imaginaire, dans notre système de représentation, a joué évidemment un rôle significatif dans la manière dont nous pouvons nous représenter la période de Vichy, mais plus largement, tandis que là, vraiment, notre sujet aujourd'hui, c'est encore une fois les écrivains et les artistes. Alors, je commence, après en avoir discuté avec les intervenants, je leur ai proposé de partir d'une question posée par Sartre, qu'on trouve dans Situation 3, qui a été publiée en 1949. Qu'est-ce qu'un collaborateur ? Alors, c'est une question qui est intéressante à plus d'un titre, y compris quand on pense au rôle de Sartre, à sa position, son attitude, à l'évolution de son attitude pendant la guerre. Et beaucoup plus récemment, dans les entretiens qui ont été retranscrits et publiés il y a maintenant 2 ou 3 ans aux États-Unis et tout récemment en France, avec un certain John Garassi, Sartre dit, et c'est là ma question à Alan Riding, qu'il n'y avait que 2 options pour un intellectuel pendant l'occupation, collaborer ou résister, je le cite. Il y a donc 2 options, collaborer ou résister. Alors, ne peut-on soutenir que c'est faux ?
Merci, Olivier. Sans entrer dans le champ très dangereux de juger Sartre, parce que ça toujours anime beaucoup de points de vue, mais le fait, c'est que Sartre est la preuve que ce n'était pas le choix de beaucoup de gens. Collaboration, résistance. Il y avait beaucoup de gens au milieu, mais on peut même ajouter collaboration et résistance, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, au début, se voyaient d'une certaine, on pourrait voir d'une certaine manière qu'ils ont collaboré, peut-être pas avec les Allemands, mais certainement avec Vichy, où ils ont accepté l'idée que la culture française doit survivre pour montrer que au moins une chose n'était pas détruite. On n'a pas perdu tout. Donc, on voit les gens comme Gide et Valérie qui participent, qui donnent ces contributions à la première, aux premières éditions de Nouvelle Revue Française de Drieu La Rochelle, qui était clairement un homme pro-nazi, fasciste, même plus que collaborateur. Donc, Gide et Valérie étaient là, et plusieurs d'autres. François Mauriac, qui termine la guerre comme une grande résistance intellectuelle. Aussi, en 1941, il demande, ou il apprécie beaucoup le fait que les Allemands ont donné plus de papier pour la publication de son livre La Pharisienne. Donc ça montre que, en fait, ce n'est pas une photo, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est un collaborateur. Il y a des gens qui commencent confus, comme beaucoup de Français évidemment. J'étais frappé la manière que les gens se sentaient totalement seuls. Ça veut dire que les Américains n'avaient aucun intérêt à entrer dans la guerre. On avait l'impression en 1940 que les Anglais allaient être envahis en question de semaines. L'Union soviétique, théoriquement l'ennemi de nazis, était ami des nazis pour les raisons stratégiques de ce moment-là. Donc la France était totalement seule. Et là, on avait ce monsieur Pétain. Donc il y avait beaucoup de gens. Claudel, j'ai une citation qu'il a dit, une belle phrase de Claudel, qu'il a écrit en décembre de 1940, un ode, un poème, France, écoute ce vieil homme sur toi qui se penche et qui te parle comme un père. Donc, Claudel n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens. Et à la fin, bon, Claudel, c'était pas un grand résistant, mais il s'est distancié des positions qu'il avait là, au début. Donc, si on commence à voir qu'est-ce que c'est un collaborateur en 40-41 et comme sont jugés les collaborateurs après la libération, parce que ce sont deux ou trois ou plusieurs histoires totalement différentes. Donc, alors, qu'est-ce que je vois comme collaborateur ? Dans les arts en général, l'écriture, c'est plus simple parce que finalement, les gens écrivaient. Et les gens qui écrivaient dans la presse collaboratrice ou d'une manière pro-nazi ou pro-Pétain, ou pro-Vichy ou contre tous les autres, bon, c'était tout écrit. Et en 44, on voyait que c'était tout écrit. Mais les autres, les gens du théâtre, par exemple, les acteurs, les metteurs en scène, du cinéma. Par exemple, prenons le cas du cinéma. Qu'est-ce que c'était la collaboration ? En fait, il y avait deux ou trois personnes qui sont parties aux États-Unis, Jean Renoir, Michel Morgan, quelques autres, Jean Gabin. Mais le reste, ils attendaient travailler. Alors, travailler sous l'occupation, ça c'est la collaboration ou non ? Il y a une autre question dans le cinéma. Travailler pour une productrice allemande, Continental Films, envoyé Alfred Greven, le chef de cette société, envoyé par Goebbels pour faire une industrie cinématographique française. Il faisait des films en français. Alors, faire des films pour Continental Films, ça, c'était la collaboration. Bon, en 44, c'était vu, ça, par quelques-uns. Dans les arts, on avait des expos. C'était plus peut-être dans les arts visuels, c'était peut-être plus simple parce qu'on avait déjà défini en Allemagne ce qu'était l'art dégénéré. Donc l'art dégénéré n'avait pas de place. Les Allemands, surtout Göring, Hitler et tous les gens qui travaillaient pour eux, ils ne s'intéressaient pas à l'art moderne. Donc même qu'ils prenaient l'art moderne dans les collections juives, ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ils revendaient ou ils changeaient ça pour l'art plus de l'Europe du Nord, de la Renaissance et après. Donc, mais alors la position de l'artiste, est-ce qu'on fait l'art politique, l'art collaborationniste ? Non, pas nécessairement. Musique. Est-ce que la musique, c'est la collaboration ? Alors ça se pose la question pour un instrumentaliste, un chef d'orchestre. Il va travailler, il veut travailler. S'il y avait des Allemands dans le public, donc il y en avait toujours des Allemands dans le public pour la musique, est-ce que ça, c'est la collaboration ? Alors, où est-ce qu'on marque la ligne ? Alors, il y a une question qui, évidemment, c'est plus clair quand on se laisse utiliser par l'occupant. Et là, les voyages en Allemagne, ils étaient très clairs. Goebbels voulait montrer que d'une certaine manière, il avait dompté la culture française. Donc, une manière pour lui, c'était d'avoir des visites. Le premier, c'était les visites des musiciens. Ils sont allés en fait à Vienne pour le 150e anniversaire de la mort de Mozart. Ils étaient super bien reçus. Il y avait des compositeurs et des gens de la culture française. Puis on avait des comédiens, Daniel Darieux, plusieurs d'autres qui sont partis là, reçus par Goebbels, une grande fête. Les artistes visuels, là, c'était même les fauvistes qui étaient considérés dégénérés, mais ils étaient acceptés parce qu'ils étaient très connus, Derain, Van Dongen, Vlaminck, tous ces gens-là. Alors pour les Allemands, c'était très, très important d'être vu, montrer que ces gens-là acceptaient l'idée que on aura une nouvelle Europe. Et finalement, les écrivains. Les écrivains, ils ont fait deux voyages à Weimar. Et quel écrivain ? Bon, évidemment, les écrivains qui étaient plutôt fascistes ou pro-nazis ou collaborateurs. Mais c'était clair. La chose, c'est que, d'une certaine manière, il y avait des artistes qui pouvaient être pas trop visibles. Mais la visibilité, c'était une manière de se définir comme collaborateur. En plus, ça reste pour l'histoire. Dans mon livre, il y a des photos. Tout le monde a vu des fameuses photos prises toujours à la gare de l'Est quand partaient ces gens-là avec les nazis. Souvent, les gens, même les nazis de la culture, Epting de l'Institut allemand ou Gerhard Heller qui était le censeur qui faisait la censure pour la littérature. Mais il y a toujours ces photos-là qui voulaient, j'imagine qu'il aurait voulu que ces photos n'existaient pas. Donc, si on passe de nouveau à la perception, parce que je sors d'une certaine prémisse, que ce n'est pas très originel en France, mais je vois que c'est beaucoup plus large que la France, c'est que les artistes et les écrivains, ils ont beaucoup de privilèges dans les bons temps, dont ils ont beaucoup de responsabilités dans les mauvais temps. Et on voit ça, si on peut parler aujourd'hui de Ai Weiwei, l'artiste chinois qui est en prison, ça montre que toujours l'art est vu par une dictature comme quelque chose de dangereux. J'ai vu quand je suis entré ici maintenant, que disait Pompidou, l'art c'est pour discuter, l'art pour contester, l'art pour protester. Bon, c'est bien, on peut faire ça dans une démocratie, mais dans les temps difficiles, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie de juger des gens qui ont regardé avec une certaine admiration, avec l'idée qu'ils avaient un talent, une touche magique, que c'est le talent, l'art. Donc quand on a un Sacha Guitry qui est vu très publiquement, socialement avec les Allemands, ou même Cocteau, donc on va pas dire qu'ils étaient des grands collabos, qu'ils allaient dénoncer comme Brasillac ou les autres, les juifs ou les communistes, non. Mais ils donnaient l'exemple, et c'est un mauvais exemple pour beaucoup de gens, où ces gens disaient, bon, bah, peut-être c'est pas si mauvais aller se voir dîner avec les Allemands, parce que Sacha Guitry, le grand Sacha Guitry, le fait. Donc, je vois, quand on voit les perspectives, l'exemple qui donnent ces gens-là. Et c'est pour ça que je parle des voyages et des choses qui sont très publiques. Et finalement, pour les artistes, pour les écrivains, ce qu'on écrivait, c'est là, c'est vu, et c'est un exemple pour le reste de la population.
Alors, Gisèle Sapiro, sous un angle tout à fait différent, vous avez repris la question de Sartre, non pas pour dire qui était ou n'était pas collaborateur, enfin, exactement, individuellement, mais d'un point de vue sociologique. Et qu'est-ce que vous en avez retiré, alors ?
Oui, je voudrais d'abord dire que Alan Redding posait la question de où est-ce qu'on met la barrière. En fait, je pense qu'il faut distinguer entre ce que Philippe Burin appelle la collaboration structurelle, c'est-à-dire comment on survit dans une situation d'occupation. On est amené en permanence à être en contact avec l'occupant. Et la collaboration idéologique, qui était un engagement en faveur de la collaboration franco-allemande, en faveur du nazisme, qui recevait un certain nombre de gratifications de la part de l'occupant. Quand Sartre pose la question... qu'est-ce qu'un collaborateur ? Il part de la définition de la collaboration idéologique qui était celle qui était l'objet des poursuites au moment de l'épuration. Hein. Et ce n'était pas la collaboration avec le régime de Vichy en soi. Enfin, ceux-là ont été écartés des poursuites. C'était la collaboration avec l'ennemi, la trahison, le crime de trahison d'intelligence avec l'ennemi ou d'indignité nationale. L'analyse de ça, et dans la représentation de l'époque, ces ultra-collaborationnistes, en fait, n'étaient qu'une petite poignée. Alors, Sartre analyse ce phénomène en reprenant l'analyse de Durkheim sur le suicide, et il dit qu'en fait, la collaboration n'est pas un phénomène de classe, c'est un fait de désintégration. Parce qu'à l'époque, certains disaient, notamment autour du Parti communiste, que c'était en gros les classes dominantes, l'élite qui avait collaboré. Donc lui dit que c'est un fait de collaboration, de désintégration, pardon, comme la criminalité, comme le suicide. Alors mon enquête sur les écrivains collaborateurs, j'ai étudié leurs propriétés sociales, d'ailleurs d'un ensemble d'écrivains que j'ai pu comparer entre eux, montre que ça n'est pas le cas. En tout cas pour les intellectuels, ça ne sont pas du tout des intellectuels désintégrés. Ils sont au contraire très bien insérés dans les réseaux professionnels. Ils sont membres de la Société des gens de lettres ou la Société des anciens combattants. Enfin, ils font partie de nombre d'instances. Ils appartiennent donc à une élite sociale d'une certaine manière. Ils sont plutôt des hommes en fin de carrière, issus le plus souvent de la moyenne bourgeoisie parisienne. Évidemment, tout ça ne sont que des tendances, ça ne recoupe pas l'ensemble, mais c'est ce qui se dégage comme portrait. Ils ont fait des études, mais souvent pas assez poussées pour accéder à un poste élevé dans la fonction publique ou à l'enseignement supérieur. La moitié d'entre eux vivent de leur plume comme journalistes, ce qui est plus que la moyenne dans la population globale des écrivains que j'ai étudiés, journalistes professionnels, tout en poursuivant des ambitions littéraires. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas des écrivains reconnus par leur père. Ils n'ont pas de prestige, de véritable prestige littéraire. Alors c'est peut-être sur le plan subjectif, il y a un sentiment peut-être d'échec de leur itinéraire. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ce sont des gens qui viennent très majoritairement de la droite, voire de l'extrême droite, pour une bonne partie d'entre eux. Un certain nombre ont été formés à l'École d'Action Française. Ils ont évolué pour partie après le 6 février 1934, mais ils viennent de cette école-là. Voilà. Alors, pour revenir aux questions de. Et ces propriétés les distinguent, il faut le dire, des résistants, de ceux qui ont eu une activité clandestine. Donc là encore, j'ai pris des définitions assez rigoureuses pour un résistant, c'est quelqu'un qui a eu une activité illégale. Voilà. Donc Sartre fait partie des résistants de ce point de vue-là. Il a publié dans les Lettres françaises clandestines. Alors, eux, par contre, ils sont en moyenne beaucoup plus jeunes, entre 30 et 40 ans. Même s'il y a des plus âgés, on a cité Mauriac, hein, qui fait partie de ce groupe, mais c'est le seul membre de l'Académie française à faire partie. Et je rappelle que Maréchal Pétain faisait partie de l'Académie française et qu'une grande majorité des membres de l'Académie française faisaient partie du régime de Vichy, notamment Abel Bonnard, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui était par ailleurs un collaborateur notoire, enfin qui poussait tout le temps l'Académie française à devenir encore plus collaborationniste, alors qu'elle se tenait plutôt sur une ligne vichiste un peu. Voilà. Et donc Mauriac et Duhamel essayaient de faire évoluer l'Académie dans l'autre sens, de manière discrète. Évidemment, les rapports de force étaient tout à fait inégaux. Alors sur ce que Alan mentionnait sur le Gide et Valérie, c'est intéressant parce que ça montre l'engrenage de la collaboration structurelle, en fait. À partir du moment où Gallimard décide de rouvrir sa maison d'édition, il doit négocier, il refuse la participation allemande dans le capital de la maison, parce que les Allemands essayaient de rentrer dans les capitaux des maisons d'édition. Et apparemment, en échange, il doit faire un certain nombre de concessions et donner notamment la revue la NRF à Drieux-La Rochelle. Et Gallimard obtient de Gide de participer à la première, au premier numéro. Et effectivement, les réactions indignées, les lettres indignées que Gide reçoit vont le conduire à arrêter, à réaliser ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est qu'on a retrouvé la préface originale que Drieux-La Rochelle avait écrite, qui était un virulent pamphlet pro-collaborationniste. Et en fait, ça a été enlevé, cette préface. Et c'est une préface beaucoup plus. Enfin, c'est une introduction beaucoup plus. Neutre, qui quasiment relève de l'art pour l'art, ce qui n'était pas du tout les positions de Drieux, parce que les Allemands, leur politique, c'était d'attirer le plus d'écrivains dans la collaboration. Alors, ils savaient très bien que ce n'est pas en prenant la collaboration franco-allemande à toutes les pages qu'ils allaient y arriver. Surtout la NRF, parce que c'était un bastion à prendre. Hein. Otto Abetz avait dit ça en arrivant. Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne auprès des forces militaires allemandes, avait dit qu'il y a trois puissances en France, c'est la banque, les communistes et la Nouvelle Revue française. Donc il fallait prendre ce bastion-là. Cet engrenage avait aussi il y avait la dimension idéologique, mais il y avait aussi une dimension de gratification temporelle et symbolique sur laquelle pouvaient compter les écrivains qui acceptaient de collaborer. C'est-à-dire il y avait des récompenses, on les inscrivait sur une liste de littérature à promouvoir. Certains, même la récompense suprême, c'était d'être traduit en allemand, parce que un des objectifs de la politique culturelle allemande en France à l'époque, c'était de briser l'hégémonie culturelle française et de renverser le rapport de force avec l'Allemagne. Et donc, les Allemands avaient interdit toutes les traductions des écrivains français en Allemagne, à part 11 qui ont bénéficié de ce régime d'exception. En revanche, ils visaient à faire traduire le plus d'écrivains allemands en français. C'est comme ça qu'on a eu toutes les œuvres de Junger, etc., traduites à cette époque. Voilà, donc il y avait ce rapport de force culturelle. D'ailleurs, en musique, c'est intéressant parce que le rapport était différent. La musique allemande avait plus de prestige que la littérature allemande. Voilà, alors entre les résistants et les collaborateurs, comme l'a bien dit Alan, il y a toute une zone intermédiaire d'attitude et d'options, de choix, dont le refus de publier. Hein. Ils n'ont pas été très nombreux à le faire, mais quelques-uns quand même. Martin Dugard, qui n'a pas eu forcément une activité de résistant, mais il a tout de suite arrêté de publier complètement. Malraux n'a rien publié en France, il a publié seulement en Suisse. André Chanson, Jean Guéhenno, René Char, bien sûr, voilà. Mais ils sont très peu nombreux parce que le choix, finalement, des écrivains a été de maintenir une présence française. Alors, évidemment, on peut discuter du maintien et du degré de compromission qu'elle impliquait. Donc, ceux qui étaient les écrivains, qu'on a appelés les écrivains du refus, qui n'ont pas forcément tous basculé dans la résistance, mais ce qu'on a appelé les écrivains du refus à l'époque, en gros, ils acceptaient de publier, mais sans compromis et en restant dans l'honneur et en défendant entre les lignes par un procédé qui était le procédé de la contrebande littéraire. Alors, c'était très difficile en zone occupée et ça a vite disparu, mais en zone sud, ça s'est développé jusqu'en 1942. Et cette contrebande littéraire était orchestrée par Aragon, qui avait développé cette technique en s'inspirant de Brecht, justement, qui avait expérimenté des techniques comme ça. Brecht réfléchissait à la ruse de parler dans le mensonge, trouver une ruse pour parler dans le mensonge. Et donc, Aragon développe une technique de littérature de contrebande, qui était des techniques très, très développées, par exemple, en France, sous la Restauration. On ravive ces traditions-là. Et donc, de parler à la barbe des censeurs, de faire passer des codes par le jeu allégorique. Bon, au bout d'un moment, c'était plus tenable parce que les censeurs étaient capables de décrypter et au bout d'un moment, en 1942, ils doivent passer à la clandestinité. Mais donc, il y a eu une gamme, effectivement, d'attitudes, de prise de position ou tout simplement de choix, parce que publier ou ne pas publier devenait un enjeu idéologique, indépendamment de l'intention des auteurs. La situation était telle, la contrainte était telle. Il faut rappeler quand même la censure, la répression, les risques prenés, le fait qu'un certain nombre d'écrivains, notamment les écrivains, tous les écrivains juifs, les écrivains antifascistes, etc., étaient proscrits. Ils ne pouvaient plus publier. Ou alors certains publiaient sous pseudonyme, mais ils étaient vraiment exclus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean Paulhan, qui était l'ancien directeur de la Nouvelle Revue française, a refusé de co-diriger la revue avec Drieu La Rochelle, parce qu'il a refusé de reprendre une revue dont seraient exclus un certain nombre de collaborateurs sur des bases autres que littéraires. Voilà.
Alors, Gérard Slama, est-ce que, par rapport à ce qui a été dit par Alan Riding et Gisèle Sapiro, il y a un ou deux points qui vous chiffonnent, avec lesquels qui vous fait réagir?
Chiffonner, pas du tout. Pas du tout, non. Je n'ai entendu que des choses justes et vraies. Simplement, moi, j'ai tendance, si vous voulez, à faire peut-être un peu trop de psychologie. C'est-à-dire que je vois que parmi tous ces noms qui ont été cités, il y a un choc initial qui est le choc de la défaite et qui les perturbe de façon dont on n'a pas imagination aujourd'hui. Ce qu'a représenté la défaite de la France, d'abord, inattendue, après une drôle de guerre durant laquelle on croyait qu'il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu. C'était une guerre qui s'achèverait par une espèce de traité de paix, dans lequel, finalement, chacun ferait des concessions à l'autre. Il y a eu également cette épouvantable expérience de l'Exode. Et puis, soudain, cette espèce de regard sur l'Europe qui fait que lorsqu'on regarde les textes, quand on voit aussi les correspondances, quand on voit des documents dont beaucoup d'ailleurs n'ont pas été publiés, c'est tant mieux, de gens qui sont devenus des résistants ensuite et qui disent « mais la démocratie, c'est fini, c'est fini ». Nous voyons partout triompher des régimes qui sont des régimes de dictature et nous trouverons sans doute, nous en France, une formule et une solution plus humaine et évidemment, on dirait aujourd'hui que Pétain a surfé sur cette vague. Il a surfé sur cette vague, d'autant plus qu'il avait la réputation d'être un maréchal humain, maréchal républicain, c'était sa réputation, un maréchal qui avait remporté, disait-on, la bataille de Verdun et qui, d'autre part, avait toujours manifesté un sentiment laïque profond. On se rappelle que lors de l'affaire, par exemple, des fiches, lorsqu'on demande au colonel Pétain s'il a vu de dénoncer les officiers qui allaient à la messe, il a répondu « Je ne peux pas vous répondre ». Je suis au premier rang, je ne vois personne. Il était d'un côté absolument intransigeant sur la laïcité et en même temps il plaisait aux cathos. C'est ça le paradoxe de Pétain. Il plaisait à tout le monde. Il a conduit une stratégie extrêmement habile à la faveur de laquelle il est arrivé au pouvoir. Et il a fallu, Gisèle Sapiro vient de le dire, il a fallu un bon moment pour que les gens se rendent compte que beaucoup des choses qui se faisaient, c'était Pétain et sa garde rapprochée, les gens de son cabinet qui étaient tous, ou pour la plupart, des gens venus de l'Action française, des gens qui étaient absolument anti-républicains, des gens qui répudiaient complètement les valeurs universalistes, qui étaient du côté de la communauté, qui étaient du côté de l'identité. J'emploie ces mots à dessein parce que nous savons qu'ils ont rejailli à plusieurs reprises dans notre histoire, autour de 1900, autour de 1930, dans la période de 1940, et puis aussi à une époque peut-être plus récente. Ai-je besoin de vous faire un dessin ? C'est en effet l'éternel débat en France entre d'un côté le projet des Lumières, le projet universaliste, individualiste, et puis d'un autre côté des gens qui le récusent et qui n'en voulaient pas. Et c'est là que se situe, si vous voulez, un problème. C'est-à-dire qu'il y a en effet la petite phalange des gens qui étaient germanophiles. Cela, pour beaucoup d'ailleurs, ça venait de la guerre d'Espagne. Cela venait de l'idée qu'il y avait un grand conflit idéologique avec la Russie et avec le bolchevisme, et que où on était fasciste, où on était communiste. C'était un bord ou l'autre. Ça a été, par exemple, l'attitude de Drieu-La Rochelle. C'était l'attitude de la petite bande de « Je suis partout », les Brasillacs, Rebatté, etc. Bon. Et ces gens-là, évidemment, étaient, eux, pro-allemands, quoi qu'il en coûtât, quoi qu'il advînt. Ils se fichaient complètement de ce qui se passait à la limite au sommet en France, et même, ils étaient contre Pétain, ils étaient contre Vichy, parce qu'ils trouvaient que c'était insupportable, le régime de Vichy. C'était ce que Monterlin appelait le régime des curés, des enfants des écoles. Et c'est ainsi que, quand ils arrivaient en zone occupée, ils disaient « Enfin, on respire ». Il y a quelqu'un qui a dit ça, n'est-ce pas ? Bon. Et d'ailleurs, Sartre a dit lui-même que dans la zone occupée, on se sentait plus libre, n'est-ce pas, que dans la zone libre, parce que c'était l'ordre moral, c'était le retour à l'ancien régime, et en effet, c'était vraisemblablement, j'ai beau être un peu l'aîné ici, je n'ai quand même pas vécu cette époque, ça devait être passablement irrespirable. Pour cela, pour les collabos, donc, c'était l'Allemagne. Et puis vous en aviez d'autres qui étaient partisans de la réforme de Pétain, parce qu'ils se disaient, c'est justement intermédiaire entre le régime nazi, le régime dictatorial, le fasciste, et puis ce côté populaire qui ne leur plaisait pas du tout, c'était des artistes, ne l'oublions pas, et puis d'un autre côté, le retour aux poisons et délices des trahisons des majorités sorties des urnes par des combinaisons ministérielles sous la Troisième République. À tendance tardieuse, ces courants-là. Alors, il y a là, en effet, un certain nombre de gens qui ont été ambigus. Qui ont été ambigus, je dirais, pour beaucoup, jusqu'au retour de Laval en avril 1942. Hein, c'est la date que suggérait Gisèle Sapiro, à peu près. Et alors, parmi ceux-là, on trouve en effet des noms qui ont été prononcés, des gens qui ont hésité. C'est vrai. Beaucoup, d'ailleurs, de ceux qui, au départ, en sens pétain, sont pétainistes, mais ne sont pas collabos, évolue très vite. Claudel évolue très vite. Claudel commence par une hymne incroyable au maréchal, et puis quand on lit son journal, on s'aperçoit que très vite, il se dit ben, « Attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Le vieux cachait son jeu. Il nous laissait croire qu'il était républicain. En réalité, il ne l'était pas. Des gens comme Paul Valéry, des gens comme Mauriac qui aussi, à l'arrivée de Pétain, écrit dans le Figaro un article absolument exalté sur cette voix qui résonne du fond des âges et qui rappelle à la France toute sa mémoire, et on retrouve là les grands thèmes, le thème qu'on trouve aussi bien dans Marc Bloch, d'ailleurs, quand il dit « celui qui n'a pas vibré au sacre de Reims, etc., etc., celui-là ne saura jamais ce que c'est que la France ». Bon, on a donc là, en effet, des gens qui se sont retrouvés dans ce que Mitterrand appelait une pétaudière. Et Mitterrand lui-même, en effet, a été pris dans ce piège, a été pris dans cette ambiguïté. Il l'a poussé parfois assez loin, d'ailleurs, jusque dans son amitié avec Bousquet. Hein. Bon. Mais il est exact que, assez vite aussi, il a compris que ce n'était pas la peine, que c'était une aberration. Et je ne dirais pas, comme le dit Paxton, par exemple, que ces gens-là ont découvert, finalement, qu'ils étaient républicains à mesure que les chances de l'Allemagne de gagner la guerre décroissaient. Pas du, je ne dirais pas ça. Je dirais, au fond, le surmoi républicain est revenu à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'effectivement, on était en train de faire en France et de mener en France une politique qui était aux antipodes des valeurs, au fond, qu'ils avaient reçues eux-mêmes dans l'école républicaine. Donc là, c'est peut-être, en effet, il y a peut-être une différence d'approche que vous apercevrez. Et puis, donc, je terminerai d'un mot, parce qu'il ne faut pas être trop long, vous nous y avez convié, sur le cas Aragon. C'est très curieux, le cas d'Aragon, parce que voilà un homme qui passe à la résistance, c'est vrai, mais qui est un modèle de cette espèce de jeu qui a été mené, on n'en a pas encore parlé, par les écrivains contre la censure. Par exemple, vous savez que La Rose et le Réséda est paru dans le Figaro. C'est quand même assez drôle qu'un des poèmes les plus exemplaires, si vous voulez, de l'idée de la résistance, se soit trouvé publié dans un journal qui lui-même jouait des ambiguïtés. Il y avait en effet dans le Figaro les deux sensibilités, les deux tendances qui se sont constamment maintenues sous la houlette assez habile de Pierre Brisson. Donc voilà, Gide lui-même se met, écrit des articles sur Goethe dans le Figaro, etc. On se dit, mais alors qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il écrit des articles dans lesquels il est ébranlé parce qu'il se passe. Il s'interroge lui-même dans une campagne qu'a remarquablement décrite Gisèle Saint-Pierrot. Sur le procès qu'on lui fait d'avoir été responsable de la corruption de la jeunesse. Il finit par être ébranlé par ça. Il y a deux éditions d'ailleurs de son journal, 1941, hein, l'une dans laquelle on voit la trace de cet ébranlement, et l'autre, après la guerre, dans laquelle Gide, utilisant son droit le plus strict de l'auteur d'être constamment maître de ce qu'il écrit et de ce qu'il assume, est revenu sur certains des éléments de son discours. Voilà, je voulais insister sur ce point parce que nous vivons aujourd'hui aussi une période dans laquelle nous risquons d'être enclins à faire comme Sartre. On est d'un côté ou de l'autre. On est du côté des bons ou du côté des méchants. Hein, bon. C'est plus compliqué que ça. Et cela dit, le fait de dire que c'est plus compliqué que ça ne signifie pas pour autant qu'on excuse. Ne signifie pas pourtant qu'il y ait des choses sur lesquelles il faut être absolument intransigeant. Et le choc de la défaite a été tel encore, là c'est le professeur à Sciences Po, Lex, qui vous parle, c'est-à-dire que il y a eu des cours à Sciences Po dans les années 40 ou 41 qui vous laissent stupéfaits. Il y a eu d'ailleurs l'article de Duverger dans la revue également où quand même là il y avait du non négociable les lois quand même antisémites de Vichy, et ils les ont inscrites, aussi bien les profs de droit constitutionnel de Sciences Po, hein, quelques-uns, mais qui étaient importants, et que Duverger, et d'autres, qui disaient, ben bon, il y a une nouvelle approche du concept de citoyenneté, figurez-vous. Hein. Voilà. Alors, il va falloir faire intervenir d'autres paramètres que ceux que nous introduisions jusqu'à présent. Par exemple, il faudra renoncer à la notion de l'intégration. Hein. Vous voyez, bon, comment les choses se sont passées là? Il est toujours difficile pour l'historien de faire la part entre, si vous voulez, les points où il doit penser qu'effectivement, il a affaire à un phénomène idéologique caractérisé comme tel, par exemple, de l'antisémitisme, et puis ceux où on est dans cette espèce de zone de flou. Qui est le propre, je crois, de situations dans lesquelles, heureusement, nous, à présent, nous ne sommes pas encore plongés. J'ai bien dit pas encore.
Alors, je voudrais poser une question à Alan Riding pour faire ripper discrètement un peu le débat sur la question des artistes, puisque là, nous avons beaucoup parlé des intellectuels, des écrivains et des intellectuels, mais revenir à la question des artistes, nous reviendrons ensuite aux écrivains et à la discussion que Alain Gérard Slama a engagée. Et par exemple, Alain, vous évoquez deux cas qui, moi, m'ont surpris, parce que j'avoue, j'en ignorais à peu près tout, mais mon ignorance est grande. C'est le cas de Cortot et celui de Serge Liffard. Alors voilà, dans un cas, donc un musicien, un danseur, qui n'ont pas vocation d'écrire dans le Figaro, ni dans la NRF, qui ne sont pas connus comme des intellectuels. En quoi est-ce que des artistes, et nous parlerons des peintres un peu plus tard, en quoi les artistes pouvaient être taxés de collaborateurs? Qu'est-ce que ça signifiait?
Cortot et Liffard, par hasard, tous les deux étaient étrangers, ça veut dire qu'ils n'étaient pas français. Cortot était suisse de naissance. C'est intéressant, Cortot, les charges contre lui sont essentiellement deux, et si on pose la question de cette manière. Une, qu'il a participé dans le gouvernement de Vichy, dans la direction des Beaux-Arts, et après avec le ministre d'Éducation Abel Bonnard. Et dans ce rôle, il a essayé de réorganiser la profession de musique. Alors, il y a pas mal de gens qui disent qu'en effet, il y avait besoin de donner une nouvelle structure de l'enseignance de musique, l'instruction de musique, et aussi d'organiser la profession. Et donc, on a créé des comités à ce genre. Alors là, s'il reste là, on dirait, bon, ben, c'est le seul artiste qui s'est mis dans le gouvernement Vichy, mais en même temps, est-ce que ça c'était pire que les autres? Probablement beaucoup moins pire que les autres, parce que finalement, il travaillait avec la musique. L'autre chose, c'était Cortot, c'était un grand, grand pianiste. Il avait beaucoup de demandes qu'il joue en même temps. Donc, il était fonctionnaire bureaucrate, d'une certaine manière, et artiste de grand talent. Et là, l'autre charge, c'est peut-être pas parce qu'il a joué en France, mais parce qu'il a voyagé en Allemagne. Deux ou trois fois, il a joué à Berlin, et aussi il a fait un tour de plusieurs villes. Il était reçu quand la première fois qu'il est revenu en France, il avait la groupe Collaboration, et c'est un groupe très important, qui n'est pas... On parle beaucoup, pas beaucoup de ce groupe, mais c'est une espèce de grand comité des relations économiques et intellectuelles, culturelles franco-allemandes. Donc il était bien reçu comme le triomphe de la culture française en Allemagne. Donc c'est vu comme un triomphe pour lui. Mais après la libération, c'était vu comme une expression très très claire et inacceptable de la collaboration. Il était puni et interdit de jouer pendant un temps. Finalement, après, il est revenu et accepté. Serge Liffard, grand danseur, grand chorégraphe, amené ici en France par, découvert, disons, son talent par Diaghilev. Donc, on commence bientôt dans le siècle des ballets russes. Et il est devenu danseur étoile et chorégraphe et aussi directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Russe, ukrainien en fait. Immédiatement, il rouvre le ballet et ça commence à opérer. Il avait des bonnes relations avec des Allemands très très tôt, jusqu'au point qu'après il disait que c'était grâce à lui que Jacques Roucher, le grand directeur de l'opéra depuis 25 ans, qu'il a été resté confirmé dans sa place grâce à lui. Donc il dominait en fait l'opéra de Paris pendant l'occupation de beaucoup de points de vue, mais aussi pour lui-même. Donc il dansait, j'ai une chiffre que j'ai trouvé là, je crois qu'il y avait quelque chose comme 800 spectacles pendant toute l'occupation, dont 260 où il était là sur l'affiche. Donc il était très, très, très actif et beaucoup de talent. Mais aussi, il était très visiblement avec les Allemands. Ça veut dire socialement, il était toujours avec eux. Il essayait d'utiliser son influence parfois pour aider des autres. Donc c'était plutôt la visibilité de sa relation avec les Allemands et avec les nazis qui l'a coûté cher. Mais pas si cher finalement, parce qu'il est parti avant, jusqu'au moment de la libération à Monaco. Il était là dans le nouveau ballet de Monte Carlo pendant 2 ans. Et puis il a commencé à danser. Il est revenu comme directeur de l'opéra, du ballet de l'opéra pendant encore 15 ans après la guerre. Donc mais c'était dans le cadre. Je mets un peu l'IFA, un peu dans le, comme Cocteau, comme Guitry, où la vanité de l'artiste était si grande que l'admiration par n'importe qui. Il y a une histoire à raconter de Guitry quand il était après l'Exode. Il voulait revenir, il avait besoin de permis pour passer la ligne de démarcation. Il est allé à un hôtel, il était là dans les Landes, et à l'entrée de cet hôtel, il y avait un officier allemand qui l'a reconnu. Il a dit « Ah, monsieur Guitry, vous êtes monument de la culture européenne ». Bon, évidemment, il a cru, et chaque fois que les Allemands disaient qu'il était un génie, il était content. Donc, alors, dire qu'il était tout mauvais, non. Parce qu'en fait, il a aidé le libérer Tristan Bernard. À la fin, il a fait ce qu'il a pu faire avec Cocteau aussi pour sauver Max Jacob. Donc, il y avait toujours des points. Mais quand, dans le cas de Guitry, quand on arrive à l'épuration, on n'est pas arrivé là encore dans notre débat. Mais là, il a dit bon, mais j'ai sauvé Tristan Bernard. Il a dit oui, ça c'est la preuve de vos bonnes relations avec les Allemands. Donc. Donc, avec les artistes en général, c'était pas souvent le cas d'une chose, comme on dirait, collaboration idéologique, comme disent Gisèle, mais plutôt de collaboration exemplaire. Les gens voyaient et il y a la chose intéressante, on n'a pas parlé de la résistance de culturelle, mais en fait, ça doit être assez confus pour les gens, parce que les gens qui finalement on découvre qui étaient dans la résistance, disons, littéraire, ils étaient aussi des gens qui publiaient des livres et avaient des pièces de théâtre présentées. Donc, et quand la libération arrive, on dit bah, écoutez, ils étaient dans la résistance, mais ils publiaient des livres, il y avait des mouches présentées dans le théâtre de la cité, avec une réception avec les officiers allemands, après avec Sartre et Dulin, etc. Donc, évidemment, c'est la confusion. Il y a une phrase de Otto Abetz, l'ambassadeur allemande, qu'on peut dire que, bon, il c'était après la guerre, donc d'une certaine manière, il voulait se sauver ou se laver. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je ne me rappelle pas un seul cas où un intellectuel français important ait refusé d'accepter l'invitation à telle réception dans l'ambassade d'Allemagne à Paris. Même ceux qui se déclarent ouvertement anticollaborationnistes sur le plan politique étaient, disait-il, partisans d'une confrontation d'idées et d'un échange de vues sur le plan culturel. Donc, de nouveau, le côté exemplaire, si on voit dans les journaux photos des gens qu'on pense que sont assez respectables, qui sont dans l'institut allemand parce qu'il y a une visite d'une grande intellectuelle allemande, bon, les gens ont raison de dire bon, « je ne comprends rien ».
Il y a un phénomène intéressant qui a été évoqué par vous-même à l'instant, mais aussi par Anna-Gérard Slama et également par Gisèle Sapiro de façon plus ou moins discrète, c'est l'impact de l'entreprise de séduction menée par les autorités allemandes en direction des intellectuels français et du monde de l'art en France. En fait, il y a eu, si je comprends bien, c'est écrit de façon assez lumineuse dans votre livre, Alan Riding, il y a eu une opération très pensée au sommet à Berlin, dans l'entourage d'Hitler, d'envoyer à Paris des gens de très haut niveau qui étaient parfaitement francophones et se disaient et étaient d'une certaine façon francophiles, parfaitement au courant des réalités du monde littéraire et artistique français, avec pour objectif d'attirer à eux, donc aux Allemands, au nazisme, un maximum, le plus grand nombre possible de représentants de cette culture qui, à l'époque, était pour le centre du monde. Paris était, sur le plan culturel, la capitale de la culture par excellence. Et je voudrais demander, puisque Michel Cohn nous fait le plaisir d'être avec nous, donc historienne de l'art, je voudrais lui demander comment elle perçoit cette chose du point de vue de la façon dont les artistes peintres et les sculpteurs ont vécu l'occupation à cette époque.
Vous savez, mes livres datent de 2001 pour le second et 92 pour le premier, donc c'est tout, ce sont des vagues souvenirs. Mais sujet comportement des peintres et des sculpteurs, même parmi ceux qui sont partis en Allemagne, on peut faire une distinction entre ceux qui sont revenus, comme on dit vulgairement, la queue entre les jambes, et ceux qui ont après écrit des choses dithyrambiques sur ce qu'ils ont vu en Allemagne, l'art allemand, la façon dont les artistes sont considérés, sont rémunérés, reçoivent des commandes, etc. En particulier, un académicien qui s'appelait Henri Bouchard. Donc ça, c'est le cas, c'est mon attitude vis-à-vis de ce voyage en Allemagne qui lui-même divise les artistes entre ceux qui avaient honte d'y être allés et ceux qui n'avaient pas honte. Une autre chose que j'aimerais mentionner, parce que moi-même, je ne sais pas très bien où situer ces artistes, mais j'ai trouvé parmi les documents certains extraits d'un registre pour le Salon d'automne 1941 et 1942, qui avait au sommet de chaque page « Je certifie être français et ne pas être juif ». Avec tous les noms des artistes, des listes qui n'en finissaient pas. Et j'ai regardé, et je dois avouer qu'on peut dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes ont signé. La sœur de Marcel Duchamp, le beau-frère de Marcel Duchamp, plein. Ça, c'est... Donc là, je me pose la question, est-ce que c'était déjà un commencement de collaboration, d'être d'accord que c'était bien pour exposer, d'être français, de ne pas être juif, ou est-ce que c'était tout simplement le fait qu'il fallait bien vivre? Je ne sais pas, je pose la question.
Oui, il fallait bien vivre, c'est la formule de Simone de Beauvoir. Oui. Et pour revenir sur la question des pièces de théâtre, par exemple de Sartre, qui se jouaient, c'est vrai que une autre question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment Sartre ressentait le fait qu'il n'avait pas le droit d'utiliser, de faire appel à des acteurs juifs pour représenter ces pièces. Mais est-ce que Gisèle Sapiro, vous avez, travaillé un peu et réfléchi à cette question du pouvoir et de l'efficacité de cette opération de séduction que les autorités allemandes ont menée auprès des écrivains français, puisque c'est votre spécialité.
Oui, tout à fait, j'en parle dans le livre, mais je voudrais citer le livre de Gérard Loiseau qui avait fait un travail très approfondi sur cette question en mettant au jour justement toutes ces instances mises en place par les Allemands pour attirer donc cette liste de littérature à promouvoir, le catalogue miroir des livres qui était coédité par des éditeurs français qui mettaient en avant les ouvrages les plus collaborationnistes. Il y avait bon évidemment le voyage en Allemagne, il y avait ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les traductions qui étaient favorisées. Donc, qui s'ajoute à ce qui a déjà été mentionné, les réceptions à l'ambassade, voilà. Donc, de fait, les plus exposés étaient les écrivains les plus connus, les plus notoires, puisque les jeunes poètes qui vont entrer en résistance n'étaient pas parmi ceux qui étaient sollicités de fait. Mais on voit la distinction qu'ils font tout de suite entre ceux qui sont des sortes de garanties idéologiques, donc dont ils savent qu'ils vont propager la propagande franco-allemande, des autres qu'il faut juste attirer là pour obtenir en gros pour les mouiller, quoi, pour obtenir en fait une normalisation de la situation d'occupation, hein, c'est ça, la normalisation de la situation d'occupation, et c'est ça que les écrivains du refus, on peut dire, ont refusé, et ça a été un débat à la Libération de dire fallait-il continuer à faire de l'art. Certains disent il faut faire de l'art dans toutes les circonstances, et certains disent non, on peut pas accepter. C'est pour ça que la plupart des écrivains reconnus de l'entre-deux-guerres se retirent de la presse et continue à publier des livres, mais il refuse de publier dans la presse collaborationniste. Et de ce point de vue-là, il y a une grande différence entre, on mentionnait tout à l'heure, Le Figaro, qui est en zone sud et qui ne fait pas de la propagande pro-allemande, et la presse collaborationniste de Paris, qui, elle, est vraiment, se déploie dans l'ignominie totale de l'antisémitisme, de l'antirépublicanisme, des règlements de compte, des dénonciations individuelles et collectives. Et je voulais revenir aussi sur la question de la défaite, parce qu'il y a eu différentes manières d'interpréter la défaite. Certes, elle a été un choc, mais il y a eu différentes manières de l'interpréter. La défaite a été exploitée par le régime de Vichy et par les vichistes et les collaborationnistes en la présentant comme l'expiation des péchés républicains. On sait très bien, si on a lu Marc Bloch, que la défaite est résultée d'un problème du commandement militaire de la France. Mais ce qui se dit à cette époque, c'est que ce sont les péchés républicains, et la littérature est prise dans cette série d'accusations, parce qu'on accuse les écrivains de l'entre-deux-guerres, et notamment Gide, Mauriac, des écrivains comme ça, d'avoir été des mauvais maîtres, et d'avoir donc favorisé le pessimisme, le subjectivisme, l'immoralisme, et que c'est ça qui aurait conduit à la défaite militaire de la France. Voilà. Et donc ces attaques sont extrêmement violentes, avec des réponses qui se font, et d'ailleurs c'est entre la zone nord et la zone sud, des réponses. Le Figaro est un des lieux de réponse et de défense de l'idée que, bon, on peut peut-être pas aller jusqu'à dire que la littérature a entraîné la défaite de la France, et dire que la littérature, comment est-ce qu'on peut mesurer ses effets sociaux, est-ce qu'elle en a, etc. Et tout ça participe de cette culture du repentir qui a été mise, enfin qui a prévalu sous Vichy, qui est d'ailleurs le thème des mouches, hein, c'est ça, c'est là-dessus que travaille Sartre dans cette pièce, hein, et ça a été perçu, y compris comme ça, hein, très clairement par le public. Il y a un travail qui a été fait qui montre que les comptes rendus, d'ailleurs, collaborationnistes sont très virulents contre la pièce, parce qu'ils ont bien décrypté l'enjeu. Alors, ce qui est paradoxal, effectivement, on évoquait le fait que Gide ait été ébranlé. Ce qui est paradoxal, c'est que les écrivains qui vont se retrouver du côté du refus de la résistance sont des écrivains qui n'étaient pas nationalistes. C'était des écrivains qui, pour la plupart, avaient prôné la réconciliation franco-allemande dans l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre. Et ce sont les écrivains les plus nationalistes, les plus anti-allemands, qui se retrouvent, pour une bonne partie, dans la collaboration, enfin, appelés en faveur de la collaboration. Donc c'est ça qui était paradoxal. Et les écrivains du refus ont mis un certain temps à adhérer aux valeurs qui se dessinaient comme les valeurs de la résistance, c'est-à-dire de défendre l'indépendance de la France au nom de... Et ils ne le font pas au nom du nationalisme, mais ils vont accepter de le faire au nom des valeurs qu'incarne la France, c'est-à-dire des valeurs universelles de liberté, etc., et qui va se relier pour eux aussi à la défense de l'autonomie de la littérature, qui est complètement bafouée avec la transgression du débat lettré, du débat d'idées par la presse collaborationniste, qui utilise en fait le pouvoir en place pour régler des comptes, parce que c'est ça l'autre versant. Il y a le versant séduction, mais il y a le versant aussi de comment ces écrivains collaborationnistes ont utilisé leur position de force qui était la leur pour régler des comptes. Par exemple, bon, Grasset obtient la sortie d'un roman de Mauriac à l'Institut allemand, et ce sont Brasillach et Rebatté qui font une campagne de presse contre lui, qui essayent d'empêcher la sortie, et qui font une campagne de presse contre lui, qui est dénonciatrice, qui d'ailleurs va... le pousser, enfin le conduire en partie à évoluer et à basculer assez vite dans l'opposition. Et en même temps, c'est pas seulement ça, c'est évidemment l'indignation quand il voit les rafles, quand il voit le traitement des populations juives. Là, Mauriac est extrêmement... Le Cahier noir, qui est un texte magnifique que je conseille à la relecture, on voit bien la juxtaposition de ça, cette espèce d'indignation et l'opprobre qu'il subit lui-même au même moment de ses plumes. Mais il faut quand même avoir un peu la mesure de jusqu'où allaient ces textes. Et quand on voit Rebatté qui signe un article, qui termine un article par « mort aux Juifs », et quand on lui pose la question sur ça à son procès, il dit « ah, mais c'est un article qui n'a pas eu beaucoup de lecteurs. Je suis partout tiré à 300 000 exemplaires sous l'occupation ». Quand on l'interroge sur son pamphlet « Les décombres », qui était un des grands, le best-seller de cette cette période, 65 000 exemplaires, ça paraît pas beaucoup, mais pour la période, dans une période de pénurie de papier, c'était énorme. Et c'était, son biographe a montré que ça a été reçu comme un événement politique, cette sortie. Et quand on l'interroge à son procès là-dessus, il dit « Ah, mais c'était une confession ». C'était pas un pamphlet, c'était une confession où j'ai mis. Donc, il joue du genre littéraire pour se dédouaner de sa responsabilité. Hein, voilà. Donc cette violence a conduit, je pense, un certain nombre d'écrivains à se réunir, à rentrer dans le camp de l'opposition et aussi à passer dans la clandestinité. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas une énorme diffusion, mais il y a quand même des tirages. Les lettres françaises arrivent à la fin de la guerre à 10 000 exemplaires, 12 000, 13 000 exemplaires, les lettres françaises clandestines. Les éditions de minuit, bien sûr, moins, c'est 1500, 500, mais il y a le bouche à oreille qui circule. Et puis il y a la contrebande quand même littéraire a eu une diffusion aux zones sud, c'est-à-dire on voit bien que ça circule. Donc c'est pas quelque chose qu'on découvre après la guerre, c'est-à-dire il y a la conscience de cette résistance qui est là, de cette opposition qui est là, même si elle n'a pas vraiment de visage. Et puis il y a les actes de résistance, de la résistance armée qui sont manifestes, qui là sont absolument perceptibles. Mais ce que fait la littérature de résistance, pour en dire juste un mot, c'est aussi de renverser cette entreprise terrible de propagande. C'est-à-dire, on présente les résistants comme des terroristes. La fiche rouge qui met les noms étrangers de ces résistants. Donc, ce que fait la littérature de résistance, c'est qu'elle inverse cette vision et elle les présente comme des martyrs, comme des héros. Elle redonne un visage, elle les nomme. Alors que, bon, toute la presse littéraire clandestine et la littérature est évidemment anonyme. Mais les seuls qui ont des noms là-dedans, ce sont ces martyrs, ceux qui sont morts justement pour la défense de ce combat. Donc, elle participe en fait du renversement idéologique pendant cette période.
Alan Riding, y a-t-il un ou deux points dans ce que vient de dire Gisèle Sapiro sur lequel vous souhaiteriez rebondir?
Je crois que pour avoir une bonne vision de ce que c'était la collaboration, ça veut dire ce qui était vu comme la collaboration, et évidemment, probablement, vous êtes déjà si confus comme nous dans cette définition. Il faut arriver à la libération et l'épuration pour voir toutes les contradictions et tout. On peut même parler des injustices parce qu'il n'y avait pas de consistance. Ça dépendait beaucoup, assez arbitraire, de qui étaient vos protecteurs dans le moment d'être punis. Donc, on peut dire, Sacha Guitry, on va dire qu'il a souffert un peu. Ça veut dire qu'il était en prison 60 jours et puis il avait des procès pendant 2-3 ans. Le cas de Cocteau, qui était plus ou moins la même chose, disons, de visibilité et d'image, qu'il était interrogé une fois, mais plus ou moins laissé. Alors, la question qui se pose, il y a une citation de Guitry quand il était en prison, on sortait de prison. C'est un peu pénible, là, et on peut imaginer qu'il presque pleurait. Est-ce collaborer que d'exercer sa profession sur l'œil de l'occupant pendant un armistice? Donc là, il disait, bon, ben, je faisais ce que je sais faire. Alors, avec les écrivains, les Brasillacs, tout ça, c'était peut-être plus clair, parce que quand on a dit, c'était tout écrit. Mais avec les autres, vous avez parlé de Maurice Chevalier, finalement, il a eu la protection d'Aragon, et même que son image était assez affectée, dommagée internationalement, il n'a pas souffert grandement. D'ailleurs, on parle de chagrin et pitié, il y a un autre film assez remarquable, Chantons sous l'occupation. Et là, il termine avec un petit film, donc, disons, un petit message que Chevalier fait à son public américain. Pour expliquer qu'en fait, you have heard that I am a collaborator, it's totally untrue. Et là, il essaie de sauver son image. Et en effet, il a eu beaucoup de succès en ça. On a eu beaucoup de débats. Le débat plus fameux entre Camus et Mauriac sur, en fait, qu'est-ce que c'est la punition appropriée pour beaucoup de gens. On a le débat, le crime de l'opinion. Le crime de se tromper. Enfin, toutes ces choses-là se sont mélangées et à la fin, on ne peut pas dire que l'épuration était plus claire que la définition de la collaboration et la résistance. Il y avait des gens qui ont fait très peu ou peut-être un amant allemand, et qu'ils étaient punis d'une manière. Il y avait des autres que on n'était pas touchés. Il y a même un débat qui Pollan et des autres ont touché, que c'est intéressant, sur pourquoi les artistes et les écrivains, ils étaient punis plus que des autres. Il y a une phrase que j'ai eue ici en français, peut-être, de Pollan. Il écrivait « Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement. Ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs. Ils bâtissent les murs des nouvelles prisons où l'enferment les journalistes qui ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti. »
Gisèle Sapir, un mot, et puis je repasse la parole à Alain Gérard Slamat.
Oui, je voulais intervenir sur la question de l'épuration, parce que je trouve qu'il y a eu, ayant vraiment étudié là de près les procès, les instructions pour le dernier livre, je trouve qu'il y a eu plus de cohérence que ça n'en a l'air. Alors effectivement, on a une représentation, on pense comment ça se fait que Céline a eu qu'un mois de prison, mais quand on regarde les procès concrètement, en fait, les juges d'instruction d'abord séparaient tout de suite tout ce qui était de la littérature, simplement de la littérature, et les écarter de la prévention. Donc pour le crime d'intelligence avec l'ennemi, on ne retenait que les écrits proprement politiques de propagande. Maintenant, c'était pas des effectivement, la défense a essayé de dire que c'était comment est-ce qu'on pouvait s'en prendre à ce qui était de relever de l'opinion. Mais dans la législation, ça relevait de ce qui était défini depuis la Première Guerre mondiale comme des actes de trahison, c'est-à-dire tout ce qui était la propagande en faveur de l'ennemi était défini comme acte de trahison. Donc rentrer dans l'article 75 et suivant du code pénal. Donc il y a un travail très très minutieux qui est fait pour voir si on rentre vraiment. Alors le seul sur lequel il y a eu un débat, c'est Henri Béraud qui est condamné à mort, parce que c'est intelligence avec l'ennemi, on était condamné à mort, sauf circonstances atténuantes. Hein. Donc Henri Béraud, là, Mauriac intervient avec un article dans la presse en disant Béraud n'a pas commis le crime pour lequel il est puni. S'il l'avait commis, je ne m'avancerai pas comme ça. Mais, et en fait, c'est vrai que Béraud avait tenu des propos anglophobes, etc., mais pas des propos ouvertement pro-allemands. Donc là-dessus, il y avait mais bon, l'anglophobie, l'antisémitisme, tout ça relevait aussi de la propagande pro-allemande pour la justice. Et ce qu'il y a, c'est que donc il y a les procédures en justice et il y a parallèlement une. Alors évidemment, il y a des gens qui pouvaient plus ou moins bien se défendre selon les relations, mais comme toujours avec la justice. Hein, ça, c'est pas. Ce que Alain mentionnait sur le fait que les écrivains et artistes ont été, et je pense, après mûre réflexion, que c'est assez juste, finalement, cette idée que les intellectuels ont été plus punis, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, leurs procès sont intervenus très tôt, avant la fin de la guerre, avant mai 1945, et dans leur cas, eh bien, il y avait des preuves à charge accablantes, il y avait leurs écrits. Donc c'était, contrairement à d'autres formes de collaboration, justement, c'était, le crime de propagande était là. Et en plus, il pouvait symboliser ce crime et individualiser la responsabilité collective du crime de la collaboration. Parce que leur nom s'était étalé dans la presse, et donc ils étaient dans la mémoire des gens, donc ils symbolisaient en fait ce crime-là. Et donc l'exécution de Brasillach, que de Gaulle a refusé de gracier, malgré une pétition, malgré l'intervention de Mauriac, etc., d'ailleurs, de Gaulle écrit dans ses mémoires, et c'est à propos de lui, même s'il ne dit pas le nom, que dans la littérature, comme dans tout, le talent est un titre de responsabilité. Donc il est d'autant plus responsable qu'il a du talent. C'est vrai que c'était une exécution exemplaire qui avait cette fonction. Et effectivement, les peines, alors Céline, son procès arrive beaucoup plus tard. En plus, il est amnistié par le tribunal militaire sous son nom Détouche et pas sous son nom Céline. Comme si on peut penser qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient Céline devant eux. Mais dans son procès arrive beaucoup plus tard. Mais de fait, Céline n'avait pas la même production pendant les années d'occupation que ses écrivains Brasillach, Rebatté, etc. C'est-à-dire qu'il avait écrit quelques lettres ouvertes dans la presse qui étaient du Céline. Mais enfin, bon, voilà. Il avait fait rééditer ses pamphlets, ce qu'on lui reprochait. Il y avait les beaux draps. Et on lui reproche d'avoir dit que c'est de Noël qui a réédité les pamphlets. Bon, évidemment, il fallait son accord. Et puis, en plus, il avait obtenu du papier des Allemands. Donc, il était complètement impliqué là-dedans. Il était dans le comité du cercle d'honneur du cercle européen, qui était un cercle collaborationniste. Il a dit qu'il a été mis à son insu, même s'il a participé, il a assisté à une... Mais il fallait vraiment un dossier très consistant quand même pour arriver à ce qui étaient les peines les plus sévères, c'est-à-dire la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité. À l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait une amnistie, etc.
Alain Gérard-Savard, un mot et puis on se passe la parole à Sarah.
Si les beaux draps pendant la guerre.
Oui, c'est
41. Oui, c'est ça, c'est le seul texte. Cela dit, c'est un vrai appel au meurtre. Autrement dit, on a vraiment le sentiment qu'à mesure que le temps passait, la justice était plus sereine, disons. Hein. Le livre de Pierre Bilger, d'ailleurs, l'avocat général consacré à Brasillac et au procès Brasillac, vu par un magistrat d'aujourd'hui, est extrêmement intéressant pour mettre en évidence des irrégularités de procédure qui ne seraient plus du tout acceptées aujourd'hui. Et, par exemple, des connivences entre Maître Isorni et le président du tribunal qui était son locataire. Donc, des choses comme ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est ceci qui me paraît quand même important à souligner, qui rejoint plus alors vous que Gisèle Sapiro peut-être, c'est quand même l'extrême confusion dans laquelle les gens étaient et la responsabilité écrasante de Pétain qui, si vous voulez, pour beaucoup de gens ne pouvait pas être à traître, c'était inimaginable. Songez que la fable de l'épée et du bouclier est encore fabriquée par le secrétaire de Maurras, écrivain Henri Massis, à l'extrême fin de la guerre pour essayer de sauver encore la réputation du maréchal. Et que vous avez encore des gens qui croient dur comme fer que c'était soit par le vieillissement, bien sûr, que c'était l'entourage, ça ne pouvait pas être lui. Or, c'est quand même ce que beaucoup de vichistes ont découvert au bout d'un an ou un an et demi, qui les a ramenés, je dirais, dans le sillage républicain. Et il y a eu un flottement assez intéressant à observer de cette fameuse famille orléaniste, vous savez, chère à René Raymond, c'est-à-dire ces orléanistes ralliés à la République sous la Troisième, mais ralliés de manière fragile et qui ont été ébranlés par la défaite, ébranlée par le discours de Pétain, qui ont marché quelque temps dans son sillage. L'un des plus exemplaires, c'était le grand-père de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Bardoux, qui propose une constitution pour la France qui était copiée sur la constitution du consulat. On rêve, n'est-ce pas? On voit combien ces gens ont été ébranlés. Et puis, il y a quand même, à un moment donné, quelque chose qui refonctionne et qui est le surmoi républicain. Et je prendrai un exemple dans votre dossier, qui est excellent. Et notamment à travers la lettre de Carcopino démettant Jean Val, un des grands philosophes de l'époque, le grand copain de Jean Kelevitch, d'ailleurs. C'était assez intéressant, je les ai vus confrontés l'un à l'autre, Jean Kelevitch disant à Jean Val, je ne veux plus entendre parler de la philosophie allemande, on peut faire de la philosophie en se passant des Allemands, et Jean Val, au contraire, qui lui disait, mais non, malheureusement, enfin, c'est comme ça, nous devons faire avec la philosophie allemande. Et Carcopino était ministre de l'éducation donc de Pétain, d'instruction de Pétain, il était un de nos grands humanistes, marqués par quoi? Par la philologie allemande, évidemment. Et en même temps, il est l'homme qui, quand il est secrétaire d'État de Pétain, voit un projet fait par son prédécesseur, qui était chevalier, sur Dieu à l'école. Il n'est pas question, dans la France laïque, on ne réintroduit pas Dieu à l'école, vous voyez? Et il a abrogé le texte. Ce qui est quand même assez curieux. Ça vous montre les ambiguïtés quand même de cette période de Vichy. Et le document que vous donnez, c'est quand même cette chose. Quand il est directeur de l'école en maths supérieures, il écrit une lettre du 19 novembre 1940 dans laquelle il démet le philosophe juif Jean Val. Et vous savez en invoquant quel argument? Eh bien, j'avais demandé un crédit pour votre poste, mais malheureusement, cette proposition n'a pas semblé devoir être acceptée. Vous voyez bien ce qu'il dit. Cette proposition n'a pas semblé devoir être acceptée. Je ne prends pas sur mon compte le refus. Certains ont cru de leur devoir de ne pas accepter. cette somme que j'ai demandée. Je m'en lave les mains, Ponce Pilate. Et ce crédit m'a été refusé. Dans ces conditions, je vous prie de vous considérer comme déchargé de la charge que vous aviez si aimablement acceptée. Je veux dire, on ne peut pas aller plus loin dans l'hypocrisie, dans la défausse, dans le détour, et en même temps dans le refus d'assumer quelque chose dont on se rend bien compte que c'est inacceptable. Si vous regardez d'ailleurs le libellé des discours de Pétain, vous voyez, il y a eu deux documents qui ont été sortis, dans lesquels il y a une annotation où il vise les Juifs. C'est des lois de conformité avec la tradition nationale, des lois de purification, d'assainissement. Mais lui, personnellement, le vieux, il ne prend pas la responsabilité du truc, il le laisse faire par les autres. Donc, il faut bien voir quand même que dans des périodes comme celle-là, vous avez surtout les écrivains qui sont des imaginatifs et qui sont souvent, des gens pas toujours extrêmement... qui nous parlent énormément de leur époque et de la sensibilité de leur époque et qui, en même temps, ne sont pas toujours eux-mêmes très responsables. Vous en avez quelques-uns qui ont flotté, qui ont été égarés. Valérie a été du nombre. Giono, lui-même, a été du nombre. Dernier point important. La plupart de ces écrivains, presque tous, ont renoncé au roman. C'est quand même quelque chose de très curieux. Le genre romanesque, Mauriac, très longtemps après un adolescent d'autrefois, Mitterrand ressort de ses tiroirs La Rose de Sable, qui était un roman qu'il avait renoncé à publier dans la période antérieure, etc., etc. Malraux, il renonce au roman. Comme si vous voulez, il s'était quand même passé quelque chose dont il prenait acte après coup, mais qui leur avait donné la mesure de l'insuffisance de l'imaginaire et pour l'imaginaire, de l'assumer ou de le dépasser. Et ça, je pense que ça vaut symptôme, je vous dis, je suis peut-être un peu trop de psychologie, mais ça me paraît une observation importante.
Merci beaucoup. Merci à tous.